fil info.
Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé plusieurs initiatives pour améliorer le traitement et le dépistage du cancer du sein mardi. Il compte aussi ouvrir un nouveau centre de santé du sein à Regina. Le centre de santé du sein sera situé au Regina Center Crossing rue Albert et sera géré par l'autorité de la santé de la Saskatchewan. L'établissement devra ouvrir ses portes durant l'année fiscale 2024-2025. Il regroupera des services tels que l'imagerie diagnostique, des consultations auprès des spécialistes et des chirurgiens, l'information à l'intention des patientes, le soutien et la façon de s'y retrouver dans le système des soins, ainsi que l'accès sur place aux soins post-traitement tels que les thérapies et la réadaptation. Grâce aux efforts combinés de nos médecins, infirmières et équipes de soins, ces actions auront un impact substantiel sur l'amélioration des services de santé du sein depuis la prévention jusqu'au traitement et à la guérison en passant par le suivi diagnostique. C'est ce qu'indique Everett Hindley, le ministre de la Santé, dans un communiqué de presse. En février, la province avait indiqué qu'elle ferait des investissements pour réduire les délais et les annulations d'opérations auxquelles font face des patientes. La docteur Sarah Miller, qui est spécialiste en soins mammaires, mentionne que la création de ce centre de santé du sein est un outil important pour améliorer l'accès aux soins mammaires et le traitement des patientes. Le gouvernement provincial prévoit aussi l'élargissement de l'admissibilité provincial au dépistage du cancer du sein aux femmes âgées de 40 ans et plus, ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle technologie de localisation des tumeurs de cancer du sein à Regina et à Saskatoon. Les détails concernant les applications financières de ces initiatives seront fournis dans le budget 2024-2025 qui sera présenté dans quelques semaines, a indiqué Everett Hindley. Le Manitoba pourrait bientôt interdire le recours aux travailleurs de remplacement. Alors que les travaux parlementaires reprendront mercredi à l'Assemblée législative du Manitoba, le gouvernement provincial devrait proposer l'interdiction du recours aux travailleurs de remplacement pendant les périodes de grève. En décembre 2023, le gouvernement néo-démocrate a fait part de son intention d'interdire le recours à une telle mesure en cas de conflit de travail. La ministre du Travail et de l'Immigration, Malaya Marcelino, avait demandé conseil à la Commission du travail du Manitoba quant à l'application d'une nouvelle loi à cet effet. Elle compte présenter ce projet de loi au printemps. La Fédération des travailleurs du Manitoba précise qu'à l'heure actuelle, le Manitoba autorise les entreprises à avoir recours à des employés de remplacement, contrairement au Québec et à la Colombie-Britannique. Les employeurs peuvent simplement ignorer les grévistes et embaucher des gens pour les remplacer, c'est ce qu'indique Kevin Rebeck, le président de la Fédération. Il ignore la grève comme s'il n'avait pas lieu, plutôt que de retourner à la table et de parvenir à un accord équitable. Cependant, des groupes d'entrepreneurs craignent qu'une interdiction de ce genre ne force les commerces à fermer leurs portes en cas de grève ou de lockout. Les gouvernements néo-démocrates précédents avaient rejeté les appels à l'interdiction des travailleurs de remplacement et avaient plutôt introduit des mesures permettant un arbitrage exécutoire si les interruptions de travail se prolongeaient. Le gouvernement provincial a également indiqué qu'il envisageait de faciliter l'adhésion des travailleurs au syndicat en annulant un changement apporté par l'administration précédente. Sous le gouvernement progressiste conservateur, une disposition qui permettait au lieu de travail de renoncer au vote secret et de se syndiquer immédiatement si 65% des travailleurs signaient une carte syndicale a été supprimée. Le gouvernement néo-démocrate déposera son premier budget le 2 avril prochain. Plus de 22 500 foyers dans des communautés rurales albertaines pourront bientôt avoir accès à une connexion à Internet à haut débit grâce à un investissement commun de 112 millions de dollars des gouvernements albertains et fédéral. L'annonce a été faite mardi dans la nation Siksika à l'est de Calgary par la ministre fédérale du développement économique rural Goody Hutching et de Nate Globish, ministre provincial de l'innovation et des technologies. Tout en soulignant que l'Internet à haut débit est devenu un service de base essentiel, les deux ordres de gouvernement notent cependant que de nombreuses personnes vivant dans des communautés rurales isolées et autochtones n'ont pas accès à une connexion rapide, fiable et abordable. Par conséquent, l'Alberta s'est engagée à assurer une connectivité totale à tous ses habitants d'ici 2027 à travers son programme de connexion à bande large, Alberta Broadband Strategy. La stratégie albertaine de connexion à bande large vise notamment à améliorer la culture numérique, publics, à soutenir les moyens de subsistance, à améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au marché mondial. La province investit 390 millions de dollars en 5 ans dans le cadre de ce programme qui est particulièrement destiné aux communautés autochtones enclavées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à égaler cet investissement pour porter le montant total à 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement ont octroyé jusqu'à présent un montant estimé à 211 millions de dollars à 26 projets couvrant plus de 33 000 foyers dans 223 collectivités. L'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est ce que a affirmé la ministre Goody Hutching. À travers ce projet de généralisation de la connexion à haute vitesse, l'Alberta prévoit jusqu'à 1,7 milliard de dollars de croissance annuelle du PIB, dont 5 % de croissance dans le seul secteur de l'agriculture grâce à l'adoption de technologies agricoles. Jusqu'à 2000 emplois pourraient être créés à long terme dans le secteur des services dans les communautés rurales. Un cas de rougeole confirmé en Colombie-Britannique. C'est une maladie que l'on pensait disparue en Colombie-Britannique après une dernière épidémie répertoriée en 2019. Toutefois, la fin de semaine dernière, un nouveau cas de rougeole a été confirmé dans la région de Vancouver. Il s'agit d'un enfant de moins de 10 ans qui a contracté la rougeole après un voyage. Selon la régie de la santé Vancouver-Coastal, d'éventuelles expositions à la maladie ont pu avoir lieu entre le 24 février et le 2 mars au Vancouver Airport Hotel de Richmond, en banlieue de Vancouver, ainsi que le 26 février entre 9h et 13h à la Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique, située au 5300 numéro 3 Road de Richmond. Il est recommandé aux familles comptant un nourrisson de moins de 1 an, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées qui ont été exposées de contacter le service de santé publique local ou la régie de santé. Les personnes non vaccinées et qui ont été exposées le 28 février au plus tard peuvent toujours limiter le risque de maladie en recevant le vaccin contre la rougeole dès que possible. De plus, si les adultes nés avant 1970 ont possiblement eu la rougeole dans leurs enfances et sont immunisés, la régie indique que les personnes nées après 1970 et qui n'ont pas reçu le vaccin contre la maladie sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes pendant 21 jours. De leur côté, les responsables de la santé conseillent aux Britanno-Colombiens de garder à jour leur carnet de vaccination et de faire vacciner leurs enfants avant tout voyage. Ces recommandations surviennent à quelques semaines des vacances de mars et dans un contexte où les cas de rougeole sont en hausse ailleurs au pays et dans le monde. La ville de Yellowknife souhaite agrandir sa décharge municipale. Devant le manque d'espace pour la gestion de ses déchets, la ville de Yellowknife souhaite ajouter une nouvelle cellule d'enfouissement à sa décharge municipale. Elle espère ainsi prolonger sa durée de vie d'une dizaine d'années. Le projet, au coût d'environ 6,7 millions de dollars, implique de construire une troisième cellule d'enfouissement appelée cellule C, qui consisterait en une structure souterraine en forme de bassin. L'installation actuelle de gestion des déchets solide dispose de deux cellules d'enfouissement, dont la plus récente a été construite en 2016. Le directeur des travaux publics de la ville, Chris Greencombe, souligne toutefois qu'elle atteindra sa capacité maximale au cours des 2 à 4 prochaines années. La ville a déjà prévu une somme de 2,16 millions de dollars dans son budget approuvé récemment et selon Chris Greencombe, la nouvelle cellule sera construite à l'ouest des deux cellules existantes et la phase de conception sera achevée cette année. La ville lance sera un appel d'offres au courant de l'hiver 2025 et selon un porte-parole de la ville, les travaux devraient ensuite être réalisés au cours des 2 ou 3 années suivantes. La production de déchets par habitant est particulièrement importante à Yellowknife. En 2017, plus de 24 000 tonnes de déchets ont été déversées dans le dépotoir, ce qui représente en moyenne 1100 kg de déchets par habitant selon un plan municipal de gestion des déchets rendu public en 2018. Cette proportion dépasse de plus de 400 kg la moyenne canadienne. Des chiffres actualisés sont d'ailleurs attendus cette année. D'ici à 2030, la ville s'est fixée comme objectif ambitieux de faire passer la production annuelle de déchets par habitant à 500 kg. Ottawa et le Nunavut signent un accord d'environ 36 millions de dollars pour les soins de santé. Le gouvernement fédéral et le Nunavut ont signé un accord de 35,6 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins de santé dans le territoire. Annoncé à Iqaluit, l'accord vise notamment à augmenter le nombre d'Inuits travaillant dans le système de santé du territoire, à recruter des infirmières, des techniciens en radiologie et des ambulanciers paramédicaux, à aider les communautés à définir leurs besoins, ainsi qu'à jusqu'à améliorer les services obstétriques à l'hôpital général de Kikiktani et la lutte contre les dépendances. Ottawa s'est engagé à financer ce programme sur 3 ans à hauteur de 23,6 millions de dollars. Le reste du montant sera alloué par le Nunavut, selon le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, qui était de passage dans la capitale territoriale mardi. L'enveloppe servira notamment à financer l'achat d'un premier appareil d'imagerie par résonance magnétique au territoire et d'un nouvel appareil de tomodensitométrie. Le ministre territorial de la Santé, John Main, a déclaré que le recrutement, les infrastructures en santé et le défi logistique de toutes sortes découlant de l'absence de routes sont parmi les principaux problèmes auxquels se heurte le système de santé du Nunavut. Par ailleurs, dans le cadre d'une autre entente, le gouvernement fédéral accordera également plus de 12 millions de dollars sur 5 ans au territoire pour améliorer l'accès aux soins de longue durée et aux soins à domicile. L'investissement doit notamment servir à accroître le nombre d'Inuits travaillant dans ce domaine et à financer en partie l'élaboration d'un programme au Collège de l'Arctique du Nunavut qui permettra de former des préposés au service de soutien à la personne. Un centre de soins de longue durée est toujours en chantier à Rincon-Intel. Le gouvernement a aussi promis d'en construire un similaire à Iqaluit ainsi qu'à Cambridge Bay.
Le fil sportif.
L'équipe Saskatchewan gagne sa 3e partie consécutive lors du Brier 2024. Pour cette 3e journée de compétition au Brier 2024, la Saskatchewan obtient une 3e victoire en autant de parties, cette fois-ci devant l'équipe albertaine du capitaine Kevin Coe. Dans une partie serrée, l'équipe de Mike McQuinn a remporté avec un résultat de 6-5. Selon le capitaine de l'équipe, cette 3e victoire consécutive est un bon signe pour le reste de la compétition. Une compétition de planche à neige attire une 20aine d'adeptes à Saskatoon. Le temps hivernal et les rafales qui ont dépassé les 50 km/h n'ont pas su arrêter la 20aine d'adeptes de planche à neige à la compétition amicale de la Saskatchewan Snowboard. Tous ont offert un spectacle de prouesse. Ils devaient utiliser les structures de métal et réaliser différentes figures dans les airs. Andrei Burakovsky tranche en faveur du Kraken qui défait les Jets 4-3. Andrei Burakovsky a inscrit le filet victorieux en avantage numérique avec 2 minutes 39 à écouler en troisième période et le Kraken de Seattle a vaincu le Jets de Winnipeg 4-3 mardi. Après que l'attaquant des Jets Mason Appleton eut bloqué un tir, Burakovsky a récupéré la rondelle et a battu Connor LeBuck avec un tir au-dessus de la mitaine. Kyle Connor, Adam Laurie et Nino Niederreiter ont répliqué pour la formation du Manitoba. Appleton s'est fait complice de 2 buts et LeBuck a repoussé 20 lancers. Avec une mention d'aide, l'attaquant des Jets, Mark Scheifele, a atteint le plateau des 700 points dans la Ligue nationale de hockey, lui qui disputait un 778e match en carrière. Sloshinsky mènera l'équipe albertaine au championnat canadien de curling masculin. Le quatuor mené par Aaron Sloshinsky représentera l'Alberta au championnat canadien de curling masculin connu sous le nom de Brier qui s'ouvre vendredi à Regina en Saskatchewan et qui se poursuivra jusqu'au 10 mars. Pour la première fois en 26 ans, l'équipe qui représentera l'Alberta au Brier ne portera pas le nom de Botcher, Crow, Martin ou Fairby. Aaron Sloshinsky a surpris Kevin Coe en finale du championnat albertain de curling masculin. Le quatuor de Sloshinsky, en provenance du club de curling Dairdry, fera partie des 18 en lice au Brier, qui commencera vendredi à Regina, en Saskatchewan. Les Flames ont défait les Penguins Pittsburgh 4-3 samedi. Igor Shchanganovich a marqué 2 buts, dont celui de la victoire à 50 secondes de la fin du temps réglementaire. Et les Flames de Calgary ont défait les Penguins Pittsburgh 4-3 samedi. Les Flames perdaient par 2 buts en troisième période avant de remonter au pointage et l'emporter. Nazem Kadri et Blake Coleman ont aussi trouvé le fond du filet pour les Flames, qui ont gagné leurs 5 derniers matchs, leur meilleure séquence cette saison. FIFA 2026, Vancouver dit ignorer combien cela lui coûtera d'organiser 2 matchs en plus. La ville de Vancouver a indiqué qu'elle était incapable de fournir une prévision des coûts associés à la présentation des matchs de la Coupe du monde de soccer masculin de 2026 parce qu'elle devra présenter 2 matchs de plus que le plan initial. Le coût initial du projet dévoilé par le gouvernement britanno-colombien à la fin du mois de janvier indiquait que la facture s'élevait à environ 230 millions pour la tenue de 5 matchs de la Coupe du monde. La majeure partie de cette facture étant attribuable à la sécurité. Cependant, avec l'ajout de 2 matchs, la ville a indiqué que sa prévision initiale ne tenait plus la route. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.